Bonjour et bienvenue sur les podcasts Sovalis. 15 minutes d'éclairage, de témoignages, de conseils, de bonnes pratiques. Par les avocats et pour les avocats. Aujourd'hui, nous parlons association avec Maître Manuel Meneghini, avocat associé au sein de Lincoln Avocat Conseil. Et nous abordons une thématique centrale, comment trouver son associé. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Alors, on va mettre les pieds dans le plat directement. On sait que s'associer, c'est une étape clé dans la carrière d'un avocat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux moteurs, la principale motivation qui pousse un avocat à chercher un associé plutôt qu'à poursuivre son exercice en solo?
Je pense qu'il peut y avoir plein de raisons et ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les raisons sont bonnes. Mais avant de réfléchir à ça et avant de réfléchir à l'association, le plus important, je pense, c'est de commencer par le pourquoi on veut s'associer. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont se dire... Qui veut être mon associé? Comment trouver mon associé? Enfin, c'est assez courant et je pense que c'est dommage de ne pas se poser un peu et de réfléchir parce que je pense que je vais peut-être un peu forcer le trait, mais l'association, c'est pas quelque chose qui va vraiment se planifier à mon sens et c'est pas quelque chose qui doit se forcer. C'est une opportunité. Une opportunité, ça se reconnaît. Et donc, pour la reconnaître, faut savoir un peu ce qui nous motive, pourquoi. Et donc, sur les motivations, on va avoir, ça peut être le besoin de masse critique, par exemple, pour mutualiser les coûts. Ça va être la complémentarité sectorielle, évidemment. On peut aussi avoir une logique de transmission aussi, encore beaucoup, et qui peut être intéressante pour les plus jeunes profils. Et la raison que je vois, moi, quand je vois passer les confrères, c'est surtout le partage du risque entrepreneurial. Ne pas rester seul et de se dire que si jamais je flanche ou si jamais il y a besoin de quelque chose, j'aurai quelqu'un. Donc je pense que c'est les motivations principales et c'est la raison pour laquelle il faut juste se demander si oui ou non, on a ce type de motivation-là, et pourquoi on va les chercher. Mais j'ai un exemple que je peux donner, et elle m'en voudra pas, parce que je pense qu'elle écoutera, elle sera contente que je la cite, mais je donnerai pas son nom. Une consoeur qui avait un associé pendant très longtemps, et quand son associé est parti, elle s'est dit, faut que je trouve un associé. Et en discutant avec elle, en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas besoin d'un associé. Il n'y avait pas la motivation, il n'y avait pas l'envie, c'était juste l'habitude. Et en fait, pour elle, c'était pas le bon moment. Et on est arrivé à la conclusion en disant, en fait, tant qu'il faut que tu te forces, ça peut être si quelqu'un te force la main aussi, pour les collaborateurs qui nous écoutent, c'est peut-être pas le bon moment. Donc au moment où on le sent, au moment où on a réfléchi, on va avoir et l'opportunité, on va la reconnaître.
En fait, il y a une question d'intuition et de se connaître aussi soi.
Exactement, je pense que se connaître soi, c'est vraiment une étape importante et c'est quelque chose qui va se mûrir parce qu'on a des carrières longues. Hein. Donc savoir où on en est dans son business, comment fonctionne son marché, ça va permettre de savoir un peu ce qu'on veut construire, ce qu'on ne veut surtout pas construire, un peu le principe red flag, green flag. Et de savoir se dire, ok, moi ce que je veux c'est ça, ce que je suis c'est ça, et donc derrière, on va passer ça, tout de suite aller sur les profils, et se dire, ok, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va être complémentaire avec ma façon de travailler, je n'aime pas produire ou j'adore produire, inversement, j'adore faire du développement de clientèle, ce genre de choses. Ça va être la première chose, très, très facile à reconnaître en fait, hein, parce qu'une fois qu'on se connaît, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on voit quelqu'un qui aime exactement l'inverse. Et après, deuxième partie, deuxième dimension, le moment où on va se dire, ok, complémentaire au niveau fonctionnement général, d'accord, mais est-ce qu'on est compatible en termes de valeur, en termes de vision? Et ça peut être beaucoup plus subtil, je pense, à trouver, ça demande beaucoup plus de travail intérieur, de savoir quelle est ma vision, et comment est-ce que je vais savoir que quelqu'un partage ma vision. Bon, après, à force, et peut-être pour donner un conseil ici aux gens qui nous écoutent, mais je pense qu'on peut se poser la question de savoir... Voilà, mon business idéal, mon cabinet idéal, dans 5 ans, où je souhaite qu'il soit, première chose. Et la deuxième chose, quel chemin je veux prendre? Je pense que ces deux dimensions-là sont extrêmement importantes et les deux se valent, parce qu'on peut vouloir amener le cabinet au même endroit, mais pas forcément de la même façon.
Ouais, il y a une dimension projet entrepreneurial et une dimension aussi très personnelle qu'il faut pouvoir conjuguer.
En fait, son associé masculin ou féminin, c'est notre relation professionnelle, mais c'est notre relation, c'est-à-dire que tous les jours, on va parler à cette personne-là, tous les jours, on va travailler ensemble. Le dimanche, samedi-dimanche, s'il y a un problème, on va être ensemble, parce que c'est pas comme une collaboration, on va se dire, au moins, j'aurai un droit à la déconnexion. Non, quand on a son projet, c'est tous les jours. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, a priori, va nous suivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. etc. Donc il faut avoir envie et un fonctionnement complémentaire, se parler, etc. etc. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir se dire, ok, de quoi j'ai besoin moi? Parce que le bon associé pour quelqu'un, c'est pas forcément le bon pour moi.
Donc, d'accord.
Comme tu disais, je pense que l'important, c'est se connaître et savoir comment on fonctionne.
Ok, on se connaît, on se dit on a un projet entrepreneurial ou un projet de vie professionnelle qui nous pousse à aller chercher un ou une associée, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est posé. Maintenant, on y va. La question, c'est très pratico-pratique, comment on identifie le ou la bonne associée, comment on évite les erreurs de choix, parce que ça peut avoir des grosses conséquences sur les structures et sur le projet dont tu parlais tout à l'heure. Comment on s'assure que, justement, l'associé partage cette même vision, ces mêmes valeurs? Est-ce que, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, est-ce qu'on doit chercher quelqu'un qui a des compétences qui sont les mêmes que les nôtres pour pouvoir grossir nos épaules et notre capacité à gérer des affaires? Est-ce qu'il faut chercher quelqu'un qui est complémentaire? Est-ce qu'il y a des réponses à ça? Est-ce que c'est aussi quelque chose de plus intuitif?
Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que tu as travaillé le pourquoi, tu vas savoir quel profil tu cherches. Et si tu te connais, tu sais quel type de profil technique, quel type de profil humain. À partir de là, en fait, tu vas passer un peu au comment. Parce que bon, je sais que mon profil type, c'est un associé comme moi, qui va avoir des enfants comme moi, qui a une sensibilité RSE comme moi, etc. etc. Et mais qui, lui, va bien aimer aller dans les syndicats, alors que moi, j'aime pas, par exemple. Ça, ok, on a le profil type, très bien. Maintenant, comment on fait pour le trouver? Donc, sur ce type d'association-là, évidemment, en tout cas, à mon sens, on évite de passer par des annonces, ce genre de choses. Je pense que annonces, etc., ça peut être très bien sur une association type transmission de clientèle, parce que c'est des associations qui ont, par nature, une durée de vie assez courte. Et donc, ces associations-là peuvent passer par une annonce, parce que c'est pas très grave, ça dure pas longtemps, donc c'est pas très grave. Sur une association qu'on souhaite plus pérenne, plus longue, il faut avoir la capacité d'évaluer un peu comment la personne fonctionne et donc de pouvoir avoir des infos sur sa manière de fonctionner dans la vraie vie. L'exemple parfait d'un associé qui peut tomber dessus et de la bonne façon, c'est évidemment celui qu'on connaît parce qu'on a été son collaborateur, par exemple. Ça peut aussi être celui qu'on a vu évoluer parce qu'on a fait un partage de locaux. Parce que là, on va le voir tous les jours, comment il traite les collaborateurs, comment il traite ses salariés, comment il réagit en cas de succès, comment il réagit en cas de difficulté. Et forcément, ça va être assez simple. Et sinon, après, moi, je pense qu'il faut aussi accepter de se reposer sur son réseau. Parce que nos amis, nos connaissances nous connaissent. Et on est pas. Voilà, moi, à mon stade, je pense que je vais bientôt m'associer. Je cherche un associé, mais j'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu connais des gens qui seraient dans la même situation que moi, avec qui ça pourrait matcher? Donc, en parler. Ça peut être un très bon levier parce que les gens vont avoir, enfin, à force de mutualiser, hein, soit on a partagé un dossier, que ça soit du même côté ou du côté opposé d'ailleurs, soit on a été en formation, soit on a été en soirée, soit on a été en congrès, enfin, etc., etc. Et donc on peut voir des personnalités et avoir l'impression qu'il y a un matching. Et c'est ça en fait qui va permettre. Et puis ça peut être aussi le jus de la chance. Hein. Faut pas non plus trop se mettre bien en tête. Parfois, on tombe dessus, on dit bah oui, forcément, une évidence, un peu un coup de foot professionnel, ça arrive aussi.
Ce que tu dis, c'est que le réseau joue beaucoup. Les annonces, peut-être un peu moins, sauf dans un cadre de transmission assez rapide, en tout cas de bout de chemin professionnel assez court. Est-ce qu'il y a des plateformes spécialisées qui existent pour ça?
Alors, sur ces annonces-là, il y a des plateformes spécialisées. Je ne sais pas si on fait du name dropping, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire, donc je n'en ferai pas. Mais ça existe, il suffit de taper à recherche associée, même sur le moteur de recherche préféré. Et on va les trouver. Il y a aussi des espèces de chasseurs de tête aussi pour associer qui peuvent fonctionner. Il y a des cabinets d'ailleurs, des cabinets d'avocats qui sont connus pour recruter beaucoup d'associés. Donc ça peut être aussi, si tant est que l'aventure nous intéresse, des débouchés intéressants. Mais ça, c'est un peu plus à la marge. En revanche, ce qui peut être aussi intéressant et ce qu'il faut se dire, parce qu'on est quand même aujourd'hui en 2026, ne pas négliger aussi les réseaux sociaux, je pense. Vraiment. Parce que ça permet d'avoir accès à des profils qu'on n'aurait pas pu voir autrement. C'est une réalité, on vit tous un peu dans son petit milieu fermé, sa petite pratique, ses réseaux, même s'ils sont très larges, au final, ça peut avoir 1000-2000 personnes. Quand on a des réseaux sociaux où on peut avoir quasiment, peut-être pas toute la profession, mais presque, qui peut s'exprimer, on peut se rendre compte qu'ah bah tiens, tel confrère qui est à Laval ou à Marseille ou je ne sais où, en fait, on est assez aligné. Bah, je vais peut-être l'ajouter, lui parler, et me rendre compte que bah, on peut faire quelque chose, on fera une société interbarreau ou autre. Voilà, ça peut être quelque chose, et ça s'est vu, hein, des espèces de petites rencontres comme ça sur LinkedIn en particulier, même si j'ai dit que je n'ai pas de nom.
Oui, c'est ça que j'allais te demander, c'est quel type de réseau? Est-ce que c'est bon, LinkedIn qui paraît comme ça évident? Est-ce qu'on peut aller voir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok?
Je pense alors qu'il faut pas se fermer, et comme on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comme on se connaît, si moi, j'aime être sur TikTok. Peut-être que le confrère que je me souviens veut, c'est quelqu'un qui doit être sur TikTok aussi. Inversement, si je pense que TikTok, Instagram, c'est pas fait pour les avocats, faut pas regarder là-bas. Ouais. Donc, il faut aussi, par rapport à sa pratique. Maintenant, après, je pense que voilà, on va être plus facile de trouver sur LinkedIn, je pense, que sur Snapchat. Bon, voilà.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que, alors évidemment, je pense que TikTok ou Snapchat sont à la marge et LinkedIn reste le réseau professionnel qui permet d'aller chercher les bons profils, mais c'est que il y a quand même une part d'aventure humaine qui est là-dedans et que tu ne dois pas négliger. On a parlé de nous, on sait qu'on veut s'associer, on a défini le profil type de l'associé qu'on veut chercher, on a défini les canaux pour aller chercher. Maintenant, la formalisation administrative. J'ai trouvé, tu vas être mon associé, formalisons ça. C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les choses, les endroits par lesquels absolument passer pour s'éviter des mauvaises surprises ou une fin qui peut être un peu malheureuse?
Alors, typiquement, là, c'est le moment où il faut arrêter de faire de l'instinctif et faire fonctionner son cerveau. Non, parce que, en fait, c'est le moment, en réalité, le plus important, je pense, parce que ça reste une union et c'est plus facile de réfléchir à comment on sort quand tout va bien. C'est plus facile de réfléchir à comment ça fonctionne quand on a envie de faire quelque chose ensemble. Donc c'est vraiment le moment où il va falloir poser les choses, réfléchir à comment on répartit le capital, comment on réfléchit aux sorties, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un accident de la vie, qu'est-ce qu'on fait si jamais on a un scénario utopique qui se réalise et le cabinet explose, comment on fait si inversement c'est catastrophique, etc. etc. C'est vraiment toutes ces choses-là, si on n'est pas d'accord. Parce qu'au début, bon, quand on est deux, voilà, si on est cinq, six, on n'est pas d'accord, comment on fait? Si jamais il y en a trois qui veulent aller à gauche, deux qui veulent aller à droite, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est ce moment-là, au moment de l'association, qu'il faut le penser, et on ne le fait pas tout seul. Je pense vraiment qu'il faut un tiers, un confrère, une consoeur, qui connaissent les choses, parce que ça permet aussi de venir déposer auprès d'un tiers de confiance tous nos affects, toutes nos envies, toutes les choses qui sont peut-être un peu difficiles à dire à son futur associé, même si quand même, normalement, si on est en début, on est censé pouvoir se dire les choses. Et donc, prendre le temps de tout dire, de tout entendre, de tout comprendre et de tout mettre en musique. Donc, il y a un pacte d'associés, les clauses de sortie, les clauses de valorisation, tout ça, voilà. C'est surtout si on ne fait pas du droit des sociétés, c'est des choses qui peuvent paraître très rébarbatives, mais c'est là où, en fait, on va sécuriser et, en fait, on va dédramatiser l'association parce qu'on sait que si jamais ça ne me plaît pas, si jamais ça ne me va pas, bah, je sais comment je sors. Donc, vraiment, prendre le temps de ça, c'est pas très romantique, mais c'est ce qui va permettre d'être serein et de savoir en cas de coup dur ce qui va se passer. Ou même, voilà, si demain on a un collaborateur, on veut le faire rentrer, comment on va le faire rentrer? Comment on va venir de 2 à 3, de 3 à 4, de 5 à 10, etc., etc. Et puis, on peut aussi remettre les choses à plat au fur et à mesure. Donc, vraiment, vraiment, prendre ce temps-là. J'ai regardé un peu avant de venir s'il y avait des stats sur la profession, j'ai pas trouvé, mais j'ai vu que pour les startups, il disait que 73% des fondateurs fixaient la répartition capitalistique et la gouvernance en moins d'un mois et que répartition capitalistique et gouvernance étaient la première cause d'échec des startups. Donc, je pense que c'est tout à fait transposable. Prenez le temps de bien réfléchir à tous ces éléments-là. Et ensuite, après, a priori, on est assez serein. En tout cas, on a un guide pour pouvoir régler les difficultés sur lesquelles on s'est mis d'accord en amont et qu'a priori, devrait faire foi ou devrait s'imposer à tous.
Ouais, ce à quoi il faut faire attention, d'après ce que tu nous dis, c'est l'élan naturel qui résulte de la joie ou du zèle de s'être retrouvé, de partir sur une aventure commune, doit quand même être atténué ou en tout cas rationalisé.
Exactement.
À l'idée que ça puisse éventuellement mal se passer dans 2-3 ans. Il vaut mieux tout se dire dès le départ et prendre le temps de tout poser, d'aller observer n'importe quel scénario pour, si jamais il arrive, avoir directement la solution.
Bah, c'est ça, et je pense que c'est tout à fait humain. Quand on a trouvé quelqu'un qui a la même énergie, la même volonté, ce genre de choses-là, bah, vas-y, on y va. On va tout de suite trouver une marque, on va commencer à attaquer le marché, on va réfléchir à une grille d'honoraires, comment on va faire pour les collaborateurs. Ok, super. Mais faut juste se dire que dans 6 mois, ça sera peut-être différent, dans 1 an, ça sera peut-être différent. Et puis pareil, tout à l'heure, je disais, on a des carrières longues, mais même nous, on peut changer, on a le droit. On n'a pas forcément les envies au même moment, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc tout ça, c'est des choses à prévoir et se projeter. Et au contraire, je pense que ça peut être assez sain et confirmer inversement que, bah, en fait, c'est cette personne-là, parce qu'en fait, on est tout à fait aligné et tout est OK.
Pour terminer cet entretien, qui pourrait d'ailleurs durer des heures, parce que je pense qu'il y a autant de formes d'associations, en tout cas de formes entrepreneuriales d'associations que d'associer quelque part. Autant d'histoires, c'est une histoire de vie qui est, comme tu le disais au départ de la conversation, c'est une histoire de vie professionnelle, mais qui peut aussi parfois dépasser ce côté professionnel. Samedi et dimanche, on est face à des difficultés, on s'entraide. Le conseil que tu donnerais à un jeune avocat qui souhaite s'associer plutôt que de partir en solo, ou même un avocat plus expérimenté ou une avocate plus expérimentée qui voudrait étoffer son cabinet à la recherche d'un ou d'une nouvelle associée. C'est quoi le premier conseil ou les deux conseils ou trois conseils que tu donnerais et qu'on doit garder en tête avant de se lancer ?
Alors le premier conseil, je dirais, c'est que s'associer, ça va être très simple, très presque logique, mais il faut le dire, c'est passer de, surtout si tu es tout seul, de passer de 1 à 2. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on accueille quelqu'un au même niveau de responsabilité et au même niveau de droit sur son projet dans son projet. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus tout seul. Donc il faut bien garder en tête que les habitudes qu'on a prises, hein, que ce soit en termes de fonctionnement, en termes de relations clients, ça va être a priori partagé et dilué. Ça a des avantages, ça a plein d'avantages. Mais ça a aussi un inconvénient, c'est que pour ceux qui ne l'ont jamais fait, bah, c'est nouveau. Donc se préparer à ça. La deuxième chose, c'est que sous réserve d'avoir fait tout ce qu'on a dit bien, on a réfléchi pourquoi, on sait pourquoi on y va, on sait comment, on sécurise, allez-y. Enfin, réfléchissez pas. Dès qu'il y a cette envie-là qui est là et que tout est bien réfléchi et que tout est posé, il ne faut même pas perdre de temps. Ça veut dire que si l'idée c'est de chercher un associé, bah, sortez, allez rencontrer des gens, faites le savoir autour de vous. Et le troisième, c'est que, bah, c'est que comme c'est un moment qui arrive en réalité, sauf pour les très gros, pas forcément beaucoup de fois dans une vie, c'est presque un mariage. donc profitez aussi. Parce que ça veut dire que votre projet est en train de grossir, il va franchir une étape. Donc c'est pas le moment de se faire trop de nos cerveaux, sauf, je répète, au moment de réfléchir les pactes et ce genre de choses.
Ce que tu dis, c'est que quand vous sentez que c'est le moment de s'associer et que vous l'avez posé correctement, il faut y aller et il faut faire le savoir.
C'est ça, exactement. Le faire savoir et y aller à fond. Et je pense que ça fera de beaux cabinets.
Ben merci beaucoup, Manuel Benigni, pour cette conversation et tous ces conseils. Et on se retrouve bientôt pour un autre podcast.
Au revoir.